bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes dans l'émission de Michel Gravier. La parole est à vous. Michel, à qui on fait un petit coucou, qui est toujours en train de se remettre d'un problème de santé. Donc, à l'antenne, Michel Minier, Christiane Thiria, donc Ligue des droits de l'homme, section de Remiremont. Nous allons vous parler un petit peu d'un film qui va sortir, un ciné-débat que l'on fait le mardi 16 septembre, donc c'est bientôt, hein, c'est vraiment bientôt, à 20h au cinéma Le Majestic, avec Didier Melmou, administrateur d'Anticor. Donc, ce Anticor est actuellement en tournée. Ils font un petit tour de France, en fait. Et ils seront sur Remiremont lundi et mardi, donc le 15 et le 16. Et donc, nous avons pu programmer le film Goliath, qui sera commenté en débat par justement Didier Melmou. Donc Goliath, c'est un thriller qui traite de l'environnement, mais aussi des lobbies, des grandes entreprises. Et il est sorti en 2022.
Oui, tout récent.
Il est tout récent, oui. C'est un film qui est sorti juste après le Covid. Donc, alors c'est vrai que Anticor proposait 3 films, mais 2 des films avaient déjà été traités par notre section de Ligue des droits de l'homme. Personne n'y comprend rien. Et La très grande évasion. Voilà. Donc, ça reste un petit peu dans le même esprit, hein, Michel. Hein,
Thriller. C'est un film récent qui a quand même eu un succès à l'époque, hein, puisqu'il y a quand même eu plus de 800 000 spectateurs qui l'ont vu à l'époque, enfin 2022. Et donc, il a été quand même bien perçu par les spectateurs. Et donc, c'est un film de Frédéric Tellier, qui est peu connu, mais enfin avec quelques bons acteurs.
Bons acteurs, disons. Oui.
Et c'est un film qui tourne autour du drame dans l'agriculture des pesticides. Hein, c'est le gros sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet qui tourne autour de deux personnes, hein, deux dames, dont une des deux est décédée, enfin a eu un gros problème de santé dû à des pesticides. Donc derrière ça, il y a tout un débat autour de la responsabilité du pesticide dans la mort de cette dame-là. Et donc, avec, ma foi, l'autre dame qui s'accompagne, elle a demandé à un avocat de poursuivre, hein, pour voir la responsabilité de l'entreprise chimique, hein, agrochimique, qui produit et distribue le pesticide. Donc, pour savoir un peu où était la responsabilité. Et puis, donc, le film tourne autour de ce sujet-là. C'est un sujet qui est de fiction, mais à partir de faits réels.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que, bon, les noms, tout ça, y compris les noms du pesticide, tout ça, c'est fictif, ça a été changé. Mmh. Hein, mais ça relate finalement déjà des problèmes qu'il y a eu, hein, avec des produits comme le Roundup, etc., et d'autres, qui ont eu, des situations aussi dramatiques avec des procès. Mais des procès très longs, très difficiles, parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein, voilà. Donc ce film-là relate un petit peu toute cette démarche avec des pressions, hein, de la part de ces entreprises agrochimiques, hein, qui sont quand même internationales. Hein, genre, pour le Roundup, c'est Monsanto. Maintenant, Bayer. Donc des entreprises très très puissantes. Donc une personne contre ces gros lobbies, hein, qui font pression à tout niveau, au niveau des médias, au niveau scientifique, au niveau politique, au niveau des lois. Hein, on en reparlera avec la loi actuelle, la loi du plomb.
Du plomb.
Donc voilà, c'est très très important au niveau de ce film et qui montre un petit peu l'évolution de cette dame relayée par cet avocat contre tous ces lobbies, toute cette agro-industrie, quoi. Voilà. Donc, il y a déjà eu d'autres films dans ce style-là, mais bon, c'est un film récent qui relate bien ce rapport de force, hein, qui est assez déséquilibré, quoi.
Oui, totalement.
Très déséquilibré.
Totalement. Et c'est vrai que bon, ce film était faisait partie des trois qui avaient été choisis par Anticor, hein, pour les débats, pour débattre. Et donc, comme les deux autres avaient déjà été présentés, on les avait présentés avec Yannick Kergoat. Et donc, on s'est dit bon, on va prendre le dernier, on va pas représenter les autres. Donc, n'hésitez pas. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un mardi. C'est pas tellement dans nos habitudes. On fait plutôt ces ciné-débats le vendredi. Mais là, comme on a sauté sur l'occasion, étant donné que l'administrateur d'Anticor passait par les Vosges à ce moment-là, on a sauté sur les deux dates qu'il nous avait données. On n'a pas choisi vraiment notre jour de la semaine. Donc, un petit rappel, donc, c'est le mardi 16 septembre à 20h au cinéma Le Majestic. Voilà, entrée 5 euros. Voilà, n'hésitez pas, venez vous documenter. Hein, c'est vraiment toujours intéressant de savoir de tout ce qui se passe derrière ces gros drames humains qui arrivent suite à justement des pesticides, ou autres. On se rappelle les biberons, oui. il y a des années, oui. Des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu le derrière, ce qui se passe par derrière. On voit le pesticide, on voit... Et pourquoi c'est aussi difficile une bataille comme ça, pourquoi elle est aussi difficile? Parce que sur ce film, on voit quand même bien les gros groupes derrière, l'aspect financier, l'aspect
société aussi,
sociétal aussi, hein, puisque
l'influence de ces groupes, oui. Internationaux au niveau politique national, puis même européenne. Parce que quand on va au Parlement européen, on est surpris de voir qu'il y a autant de bureaux de lobbyistes dans le Parlement que de bureaux de parlementaires, voire même peut-être plus. Ça veut dire qu'ils sont très influents, que ce soit au niveau français, politique, mais au niveau européen. Et c'est vrai que les lois, ben, c'est là qu'elles sont votées. Et le problème, ça fait un peu comme on n'y comprend rien. Là aussi, on n'y comprend rien parce que c'est un domaine scientifique très, très pointu, voire même où la recherche... ma foi, les chercheurs, des fois, ont des hypothèses. Hein, c'est peut-être cancérigène, c'est certainement cancérigène, mais de là à dire que c'est 100% cancérigène pour l'arrêter, c'est très difficile.
C'est très
Donc
difficile.
Même ces gens-là, ces grands chercheurs... en médecine, sont pas sûrs du coup. Donc, c'est vrai que des citoyens comme nous, on a du mal à se faire une idée qu'est-ce qu'il en est, hein, savoir est-ce que c'est vraiment dangereux ou est-ce que ça l'est pas. Ouais. Et si on se rappelle des scandales, ma foi, il y en a eu l'amiante, hein, il y a eu ça. Donc,
oui.
Pendant des années, on savait qu'il était dangereux, mais il fallait pas arrêter la production pour des raisons aussi d'emploi.
D'emploi, hein,
c'est que
oui,
si on ferme des usines en France... c'est des emplois qui sautent dans certaines régions, donc qui sont importants. Donc finalement, les politiques sont... Et puis aussi les salariés, ils interviennent pour éviter de fermer les entreprises. Donc il y a un rapport de force qui est compliqué, quoi. Et c'est vrai que le citoyen, là-dedans, dans le débat, il a du mal à s'y retrouver, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Anticor a choisi ces trois films-là, hein, ces trois films différents, mais ces trois films, quand même, qui expliquent les derrière de tous ces problèmes, de tous ces grandes firmes. On a besoin aussi de savoir exactement pourquoi ça avance pas, pourquoi c'est pas fait. On sait souvent la moitié de la vérité, quoi.
Oui, puis comme on n'a pas les moyens, des fois, de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai,
oui.
Ou ce qui est incertain, ou ce qui est incomplet, c'est vrai que, puisque les scientifiques, des fois, ne sont pas d'accord sur ça, sachant aussi qu'il y a des intérêts économiques, plein d'autres choses derrière, Donc ces entreprises-là, ce n'est pas une petite entreprise locale, hein, c'est une entreprise internationale. Hein, quand on prend Monsanto, bah, ça a déjà commencé comme entreprise avec les défoliants au Vietnam, avec cette fameuse dioxine. Et cette dioxine, qui est un des poisons les plus mortels que l'homme ait inventé, on en a parlé quand il y a eu le Seveso. Sauf que, bah, ma foi, au Vietnam, il y a eu des quantités impressionnantes de cet herbicide qui a été déversé pendant la guerre, sans qu'on s'en inquiète, et ma foi, les Vietnamiens ont subi, et on s'est interrogé quand il y a eu ce problème de Seveso, avec cette dioxine, on s'est rendu compte que bah, c'était très dangereux, mais pour cet effet, et après on a pris des mesures hein, derrière ça, mais il faut que ce soit des mesures déjà européennes hein, pour nous, mais pas faciles, et puis après des mesures internationales, mais c'est encore plus difficile.
Bon, ben c'est encore pire.
C'est encore pire. Parce que ben, tous ces groupes-là font le maximum hein, pour ben, repousser un peu, pour essayer. Surtout que des fois, c'est interdit un produit dangereux dans un pays, mais comme par hasard, dans d'autres, ben, il est moins dangereux, où on peut l'utiliser.
Oui, c'est ça. Donc, c'est complexe. Hein.
Oui, voilà. Donc ce qui fait que des fois, ben, ils continuent à produire, mais ils le vendent dans des pays où ce n'est pas interdit. Et c'est là aussi, où, par exemple, quand on reprend la loi du plomb,
oui.
L'insecticide qui est mis en cause dans cette loi, ben, en disant que ben, les betteraves, eh ben, si en France on l'interdit, mais d'autres pays, même européens, ce n'est pas interdit. Donc il y a concurrence déloyale. Donc vous voyez, ça joue à la fois sur le côté du produit, mais aussi sur le côté économique.
Oui, c'est hein, ça.
En jouant sur ça, ben, nous, on nous coule notre production parce qu'on est en concurrence déloyale avec d'autres pays, y compris européens. Donc, il faudrait qu'il y ait une pression au niveau européen pour faire par le haut et non pas par
et
le
non
bas.
Pas par le bas.
Et actuellement, on fait plutôt par le bas, c'est-à-dire qu'on supprime les protections, quoi, un peu partout. Comme ça, au moins, voilà, on ne s'occupe pas de ça.
Même problème aussi avec les élevages. Hein, oui. On voit la même chose. Hein, porcins et tout.
Donc tout ça, c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. C'est pour ça que...
Oui, mais je joue là-dessus, hein, parce que les entreprises bah, comme Monsanto et d'autres, et bah, même Monsanto, maintenant, il n'y a plus Monsanto, c'est Bayer. Donc, vous voyez, quand ça n'a plus, ils changent, ils se regroupent avec une autre, et c'est Bayer qui est guère mieux, mais enfin, voilà, c'est une autre image. Et Monsanto s'est regroupé sur d'autres productions que ces pesticides. Donc, ils jouent là-dessus sur le fait que le côté scientifique, ils sont honorables, donc ils donnent la vérité. Ils ont la vérité.
Ils ont la vérité.
Et puis après, en face, ben, il faut qu'il y ait des. On l'a vu avec le Roundup, hein, donc le produit de Monsanto. Et ben, il y a eu un paysan qui a, en France, qui a essayé de porter plainte justement sur ça, en ayant des problèmes de santé. Et puis en portant plainte, et ça a duré des années, avant que ça aboutisse. Disons. Ça avance,
hein,
mais c'est très compliqué parce qu'une personne, on dit toujours, mais il y a d'autres circonstances qui font que vous avez eu un cancer.
Oui, c'est ça.
D'autres choses, vous avez peut-être, je ne sais pas, fumé, enfin, ou d'autres produits. On n'est pas à 100% responsable de votre cancer. Donc après, voilà, c'est des problèmes, des arguments pseudo-scientifiques contre d'autres arguments. Voilà.
Ouais.
Et après, ben, ma foi, le législateur, là-dedans, faut qu'il partage en essayant de proposer une loi qui ne soit pas trop défavorable non plus à son électorat aussi.
Aussi, oui.
Hein, il y a ça aussi.
Voilà, donc n'hésitez pas, hein, venez nous rejoindre le mardi 16 au cinéma Le Majestic et vous ferez la connaissance de Monsieur Didier Melmou.
J'ai grandi ici auprès des petites gens, de celles qu'on néglige, de ceux à qui l'on ment. Les mêmes qu'on méprise pour un délit d'accent. Mais ici-bas, on ne fait pas semblant. Yeah. toi je maudis l'arrogance des géants qui d'un trait réduisent nos espoirs à néant. Quand les corps s'épuisent à soulever le ciment, sache qu'ici-bas, on se bat pour un toit décent. L'origine fait les liens du sang. Que je sois maudit si je trahis les gens. Et moi je rêve d'une trêve, que l'on s'enlace, que l'on s'embrasse. Et moi je rêve d'une trêve, d'une place.
Voilà, donc c'est toujours Michel et Christiane à l'antenne de l'émission La parole est à vous. Donc on vous a présenté le film Goliath qui passera donc mardi 16 au cinéma Le Majestic. Donc on vous espère nombreux. Et puis donc on va parler un petit peu de la loi du plomb. Hein.
Oui, ben, la loi du plomb, et ben, ma foi, elle reprend trois grands thèmes, dont un sur un insecticide qui est soi-disant très important pour la betterave sucrière en France, et puis pour la culture de noisetier, qui est quand même très marginale, mais enfin bon, oui. Pour une fois on en tient compte. Au niveau betterave, alors il y a cet insecticide, l'argument c'est que il y a des parasites, hein, et donc qui s'attaquent aux betteraves, et donc cet insecticide est soi-disant indispensable, hein, pour traiter ce problème-là. Sauf que il y a des arguments qui sont avancés. Les autres pays européens, certains en tout cas qui sont en concurrence, ont le droit de l'utiliser. Ouais. Donc il y a concurrence déloyale, hein, donc par rapport aux règles européennes, hein, de concurrence, ça va pas. Donc en tout cas ils se plaignent de ça. Et puis deuxièmement, on ne met pas en œuvre non plus les méthodes alternatives à cet insecticide, hein, qui y a, et on met moins d'argent et moins de recherche sur ces mesures alternatives qui existent et qui sont moins développées, en tout cas moins mises en avant. Donc ça, d'où cette avancée sur cet insecticide. Mais on oublie de voir, comme toujours, hein, ce qu'on appelle les externalités négatives en économie, c'est-à-dire que les effets négatifs d'un produit, par exemple. Donc là, le produit, il a des effets très négatifs sur les apiculteurs, c'est les abeilles. Et ça, oui. C'est jamais chiffré. Et quand il y a quelque chose qui est négatif, on ne rentre jamais dans le prix, dans le coût. Tout ce qui est négatif, c'est finalement la collectivité nationale d'assumer le coût des problèmes. Ça, c'est classique, hein, dans beaucoup de choses. Tout ce qui est négatif, on ne l'intègre pas dans le coût. C'est vrai pour ça comme pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est aussi plus rentable si on oublie ça. Et si c'est la collectivité qui ensuite paye les dégâts.
Les apiculteurs ont fait une énorme pétition. Eh ben oui.
Donc il y a eu un gros boom sur cet insecticide-là, ce qui est curieux, parce qu'il y a eu 2 millions de personnes sur une pétition qui est partie un petit peu comme ça. Mm. 2 millions de personnes très très rapidement, avant que ça passe au niveau de la loi, que ça soit débattu, très rapidement, tout le monde a été étonné. Hein, je pense, parce que... Alors après, on s'étonne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça. Sur un insecticide que personne ne connaît, les betteraves, ça ne mobilise quand même pas tout le monde, mais il y a eu un phénomène de société, quand même, pour que les gens se mobilisent sur ça. C'est curieux. Ils sont toujours dernières, parce qu'ils ne sont pas considérés comme agriculteurs. Donc, et par contre, la biodiversité et la pollinisation... Ben par contre, c'est fondamental parce que ça, la baisse de la biodiversité, ben c'est pareil. C'est difficile à aborder. Donc, comme c'est difficile, on l'aborde comme ça, en passant. On laisse, je ne dirais pas tomber, mais c'est trop complexe pour être abordé comme ça. Donc, on laisse tomber. Et puis, on cherche bien les choses simples. Donc, un insecte qui abîme les betteraves, qui nuit aux betteraves, on met un insecticide, on règle le problème. Alors que de gérer sur de la biodiversité, c'est complexe. Hein, on ne sait même pas des fois comment ça avance. Donc, voilà. Mais cette pétition a quand même surpris énormément de gens, y compris les parlementaires. Après, ils ne savaient plus trop comment défendre cette loi sur ce produit, en tout cas.
Oui, ils ne s'attendaient pas, du tout à ça, d'autant plus qu'en fait, il y a cette pétition qui a eu 2 100 000 signatures.
Oui, bah oui.
Elle est partie quand même de l'Assemblée nationale.
Voilà, donc il y a une légitimité, quoi. C'est pas comme ça. C'est pas des gens comme ça qui ont lancé ça.
Elle est partie d'Éléonore Patéry qui l'a mis en ligne. Et c'est vrai que ça a fait un boom tout de suite. Hein, dans les mêmes temps, il y avait cette autre pétition par rapport aux abeilles. Mmh. Et c'est vrai que du coup, on a senti quand même un peu une mobilisation quand même par rapport à ça. Les gens ont quand même été... touchés ouais. par ces problèmes engendrés par ces pesticides. Ouais.
Ben, surtout qu'on leur a, ils se sont sentis un peu imposer quelque chose sans qu'ils aient le mot à dire, ni même, parce qu'aussi, il faut voir que le Parlement, enfin, le Parlement et sénateurs, le débat a été quand même largement tronqué, très rapide, donc pour éviter justement tout débat. Et donc, il y a eu un peu un sentiment d'être mis à l'écart de discussion. D'ailleurs,
et puis qui regarde une discussion importante parce que c'est quand même la vie de tout un chacun. Ça donnait un peu l'impression on passe au-dessus des gens, ça les concerne, mais en fait nous on prend c'est nous qui allons décider à leur place, quoi. Donc ce côté-là a été quand même assez...
Surtout que cette loi-là, en plus, elle a été mise... c'est un sénateur qui l'a mise en place. Enfin, ce projet de loi, en tout cas. Monsieur Duplomb, qui est sénateur de Haute-Loire. Dans un département, en plus, où aucun des agriculteurs n'est concerné par les trois axes de cette loi. C'est-à-dire les betteraves sucrières, il n'y a pas. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les méga-bassines. Ce sont des retenues d'eau pour d'irrigation... principalement de maïs pour l'exportation, donc il n'y en a pas non plus. Et la troisième, c'est pour l'élevage industriel, genre volaille et porcin, mais à très grande échelle, hein, pas 1000 poules, etc. C'est des très très grands bâtiments, donc ils demandent une autorisation particulière, et là la loi, elle permettait justement de supprimer cette loi, qui demandait une consultation avant l'implantation de ces grands bâtiments industriels. Donc c'est curieux, et ça concerne en fin de compte peu d'agriculteurs, et tout le monde se demandait qu'est-ce que venait faire cette loi pour sauver l'agriculture, parce qu'il y a eu des manifestations agricoles pour d'autres motifs ces derniers temps, cette année et la dernière, mais pour des raisons, je dirais, de revenus. Et là, il n'y avait rien dans le revenu, à part des betteraviers éventuellement, mais sinon, rien dans le revenu agricole. Donc, beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce que venait faire cette loi.
Ouais, c'est vrai.
Et ce qui fait que la pétition, finalement, même la Ligue des droits de l'homme était intervenue dedans.
Oui.
Donc, pour plusieurs motifs. une aberration scientifique, hein, parce que cet insecticide, bon, c'est toujours controversé. L'autre, éthique, hein, c'est important au niveau de la liberté des droits de l'homme. Mmh. Environnemental, parce qu'on l'a vu avec les méga-bassines, tout le débat qu'il n'y a pas eu et qui est compliqué. Quel projet de société on met derrière, hein, est-ce que, voilà, au niveau, parce que produire, pourquoi ? Et sanitaire, parce que c'est pareil, derrière, il y a des grandes questions sanitaires, y compris dans les problèmes personnels, hein, de santé, oui, individuelle, humaine. Donc derrière, c'est un peu éludé, quoi. Donc tout ça, ça a fait que ces associations-là, dont la Ligue des droits de l'homme, ont poussé...
Sont intervenues pour... Tout le monde a signé, ouais, cette pétition, ils ont fait une pétition commune.
Oui.
Mais c'est vrai, puis il y en a quand même... on retrouve dans la pétition Polynis, dont on parlait tout à l'heure pour les abeilles, la Ligue, Terre de Liens, CIWF France, Terre Solidaire, Greenpeace, Fondation pour la Nature pour l'Homme, 30 millions d'amis, Réseau CIVAM et Biodiversité. En même temps, donc c'est vrai que
c'est très très large comme
très large.
Intervenant.
Oui, c'est vrai. On se rend compte quand on les cite, hein, que ça touche un petit peu tout, hein, voilà, en fait, et tout le monde est intervenu et tout le monde a mis un petit peu la main à la pâte, hein, pour cette.
Et c'est un peu curieux parce que c'est vrai que cette loi donnait l'impression qu'elle avait été forcée un peu. Pour faire passer quelques intérêts dans le milieu agricole, plutôt industriel, pour développer cette orientation. Parce qu'il y a quand même deux choix. Soit on développe une agriculture pour produire de la masse, hein, de produits agricoles, pour nourrir les gens, entre guillemets, à pas cher. Ça, c'est une première orientation. À la rigueur, sans agriculteurs, ou très peu, quelques salariés, des entreprises qui emploient des salariés, et une autre agriculture qui est encore actuelle, hein, surtout dans les Vosges, c'est par des agriculteurs qui sont quand même locaux, qui occupent le territoire, qui entretiennent aussi le territoire, et qui font vivre les communes, etc., tout l'environnement social dans notre département et ailleurs aussi. Donc c'est deux orientations différentes, et là, on sera aux États-Unis ou en Amérique du Sud, qui est quand même un choix de société, là. C'est plus un choix agricole, c'est un choix de société. Hein, qu'est-ce qu'on veut comme société, comme nourriture, comme puis choix de vivre, localement aussi, parce que c'est important.
Puis, ça, je trouve qu'elle allait loin quand même. Enfin, elle va loin. Il faudra voir ce qui va se passer par la suite, hein, concernant cette loi. Mais... elle prévoyait quand même une dérogation pour les projets, donc ce qu'on disait, d'élevage bovin, porcin, avicole, soumis à autorisation environnementale, en permettant de remplacer les réunions publiques obligatoires, parce que pour que certaines entreprises s'implantent, il y a des réunions publiques avec les gens du village.
Des très grands projets qui sont plutôt industriels que des agriculteurs. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est des industriels qui poussent derrière.
Voilà, hein, comme un énorme élevage porcin, c'est sûr que les gens qui habitent dans le secteur, il faut quand même qu'ils soient prévenus.
La
loi, elle permet de remplacer les réunions publiques obligatoires par des simples permanences. Ouais. Ce qui fait que ça réduit complètement la transparence et la participation du public. Les gens ne vont pas se déplacer l'un après l'autre pour aller à une permanence pour demander ce qui va se passer. Une réunion publique, au moins, il y avait des échanges. Il y avait des échanges avec l'industriel, il y avait des échanges entre gens du village, tandis que là...
C'est quand même des projets qui sont plus au niveau de l'agriculteur. Là, c'est des projets plus industriels.
Oui, c'est plus industriel. C'est des grosses industries d'élevage, quoi, en fait. Hein, c'est des grosses batteries d'élevage.
Parce que c'est un peu, quand on voit des fois en Chine, c'était surprenant. J'ai vu un reportage sur des tours, carrément, où il y a des porcs, sur 7 étages. Carrément des tours. Et donc, c'est vraiment des usines à fabriquer. Du porc sur 7 étages, mais immense, quoi, comme je sais pas, parce que oui, 7 étages, plus que du béton, Et donc, on nourrit, on soit, enfin bon, c'est vraiment
les pauvres bêtes, en fait.
C'est de l'industrie, quoi. C'est plus
de l'industrie, c'est plus de l'élevage.
C'est plus de l'élevage. Donc, est-ce qu'on s'oriente vers ce genre d'agriculture, ou sans agriculteurs, ou autre, hein, avec nos produits, quand même en France, où on est quand même bien placé pour ça? Donc, c'est un choix de société, là.
Oui, c'est un choix de important, société. C'est important. Mais un choix important, hein. Il faut vraiment choisir ce qu'on a envie de et puis ce qu'on a envie pour nos enfants. Est-ce qu'on a envie pour la société de demain, hein, parce que...
Puis le pays de la gastronomie, quand même, qui irait sur ce genre de... Comme dirait José Bové à une époque, la malbouffe.
Oui,
ce serait quand même un peu un comble pour un pays de la gastronomie, quoi.
Oui, ce serait quand même.
Mais c'est vraiment un choix, parce que même dans nos campagnes, c'est vrai que les agriculteurs entretiennent le paysage, l'eau. Enfin, oui. Il y a plein d'incidences quand même. Et puis, occupent le territoire, les communes, l'espace commercial, etc. Hein.
Donc, oui.
C'est très important, c'est un choix.
On a encore la chance aujourd'hui de pouvoir se dire, bon, tiens, je vais aller chercher des pommes de terre, je vais aller voir l'agriculteur à côté, hein, parce que...
Puis le tourisme, parce que si nos montagnes ne sont plus entretenues par des agriculteurs, hein, par leur pâturage
par le pâturage,
oui. Et ben, ce sera de la friche ou de la forêt. Donc le tourisme, il y aura un impact, hein, ça sera...
Tout découle, hein, voilà. Tout se tient, hein, de toute façon. Hein,
donc c'est un ensemble, tout ça. Hein.
Tout le monde a besoin de tout le monde, hein, comme on dit. Mais là, c'est pareil. Hein, dans ce cercle de vie, tout est important. Hein.
Donc, c'est aussi pour ça que les gens ont sûrement se sont sentis un peu impliqués sur ce genre de loi. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui aurait pu quand même les motiver à réagir comme ça
parce que vu le
sujet.
Le sujet et puis le nombre de signatures assez rapide, hein, quand même. Hein, ça s'est fait assez rapidement. Hein. Et ça a étonné tout le monde. Il faut juste espérer que, avant de prendre des décisions comme ils en prennent, qu'ils réfléchiront un petit peu, puis qui serait bien aussi qu'on demande l'avis des Français. Hein.
Ben oui, parce que sur des choix de société, chacun a son avis à dire, quoi, à exprimer, hein, ce qui est quand même pas toujours le cas, parce qu'on segmentarise un peu tout, quoi. Bon. L'agriculture, etc., mais tout, c'est un ensemble. Surtout au niveau... Quand on parle de ruralité, la ruralité, c'est ça, hein, il y a des agriculteurs, des productions,
oui.
Le sol, l'eau, on le voit bien, par exemple, la réserve en eau qui est extrêmement importante, ça dépend beaucoup de ce qu'il y a sur le sol, hein, que ce soit les forêts et même le climat. Hein, c'est impacté parce que s'il y a des forêts, s'il y a des cultures qui prennent de l'eau, tout ça, ça a un changement, hein, sur l'eau que nous, on consomme.
Ben oui.
Le volume et la qualité aussi. Hein, on le voit au niveau des pesticides, hein, dans l'eau.
Dans l'eau, oui, les médicaments. Les
médicaments et puis les pesticides, enfin, docteur, plein de choses. Quoi.
Le
donc,
docteur
la quantité et la qualité de l'eau, elle est impactée par tout ça.
Donc, le docteur Tisserand serait là, il dirait toutes les pilules et toutes les... Tout se retrouve dans l'eau et tout...
Oui, avec des impacts, parce que c'est
avec
pareil.
Avec des impacts sur la santé et tout le reste. Hein.
Il y a cette notion aussi de prévention, parce qu'en France, hein, contrairement aux États-Unis, on axe beaucoup sur l'aspect prévention. C'est-à-dire que quand on met quelque chose en un produit chimique ou autre, une technique, normalement, on doit étudier avant, hein, voir si les conséquences négatives du danger de ce produit-là.
Oui.
Hein, parce que c'est des produits souvent qui n'existent pas dans la nature. Alors que, par exemple, aux États-Unis, eux, c'est le contraire. On le met sur le marché, et s'il y a un problème, après, on réagit. Mais en attendant, voilà. Et après, pour réagir, c'est des voies trop tard, et puis aussi, il faut mettre des moyens. Enfin, en tout cas, donc, c'est une démarche totalement différente. Et en France, on essaie quand même de garder cette notion de prévention, hein, en amont, plutôt que de réparer les dégâts éventuels.
Oui.
C'est quand même... La mentalité est très différente, mais ça a un coût. Et puis, effectivement, on est moins rapide dans l'évolution de certaines techniques en faisant ça. Ben oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ça a un coût. Mais après, par contre, c'est peut-être au niveau européen qu'il faut aussi jouer cette carte-là. C'est-à-dire l'imposer au niveau européen, hein, de garder cette notion de prévention, de précaution, donc en essayant de se protéger.
Ça a été beaucoup demandé, hein, quand même, hein, par les agriculteurs, hein, quand ils ont fait leur Leur manifestation, il le disait ça, hein, on l'entendait beaucoup. Hein.
Ben oui.
Donc, c'est important. Hein.
Ben oui, plutôt nivelé par le haut, comme on dit toujours, plutôt que de supprimer toutes les barrières, toutes les règles, tout ça. Alors c'est vrai, ils disent toujours, bon, effectivement, dans cette loi comme ailleurs, de simplifier un peu les démarches. Oui, effectivement, il y a sûrement beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais simplifier n'est pas éliminer ce qui t'embête, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est deux choses différentes. Hein. C'est vrai qu'avec tous nos niveaux de régulation, hein, que ce soit administratif en France et en Europe, bon, effectivement, des fois, c'est complexe. C'est complexe, c'est long, c'est lourd. Donc, il faudrait sûrement simplifier des choses. Et aussi, qui regarde, qui fait quoi. Mais pour autant, supprimer des règles de protection, ça, c'est autre chose. Et ça, je ne pense pas que les gens ils soient d'accord, plutôt par la qualité en haut.
On ne comprend pas. En fait, le problème, c'est que quand ça passe, c'est des lois qui passent. Ça passe vite fait, comme ça, aux infos. Et, on ne comprend pas forcément, et on le comprend, hein, parce que nous, on n'aurait pas ces documents qui nous arrivent régulièrement. On veut bien comprendre que monsieur tout le monde qui regarde la télé, qui n'a pas les explications, il ne comprend pas vraiment de quoi on est en train de lui parler, et puis surtout, quels sont les enjeux derrière tout ça.
Ah oui, puis après, il faut voir aussi les médias auxquels les gens s'intéressent actuellement. Hein.
Oui,
c'est un grand problème, quelle source d'information on a et on utilise.
Oui, hein,
par tranche d'âge et aussi par catégorie socio-professionnelle. Hein. C'est vrai qu'autrefois, il y avait la télé, le journal de 20h, d'autres, et puis un peu le papier. Mais maintenant, ça a beaucoup évolué.
Hein. Ah donc, oui.
La forme d'information aussi est importante.
Elle est importante. La source.
Donc, ils comprennent des fois, parce que des médias très courts, hein, qui ne vérifient pas forcément leurs sources.
Oui.
C'est aussi ça. Avant les journaux, on savait qu'il y avait comme cette déontologie de vérifier ses sources, surtout dans certains médias. Alors que là, maintenant, c'est moins. Il faut aller plus vite que l'autre. Donc, des fois, c'est.
Oui, compliqué. Hein. C'est compliqué quand il faut tout sortir tout de suite, c'est certain. Ouais. Donc, je crois qu'on est sur une pause de publicité. Enfin, pas de publicité, non. Pardon, il n'y a pas de publicité à Radio Gamozo. De musical, musical. Oh là là, la grosse bourde, oh Michel là. Serait là. Non, non. Pas de publicité.
Fermier ouatait la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie. On dit tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique.
League. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Voilà, donc c'est toujours Michel et Christiane dans l'émission La parole est à vous de, sur Radio Guémozo. Donc avec notre ami Michel Gravier, pour qui on fait un petit coucou. On pense bien à lui, voilà. Donc, on a parlé un petit peu du film qui sera présenté donc, le 16, un Goliath. Et on était sur les pesticides, la loi du plomb, voilà. Michel, tu avais encore des choses à dire, toi, sur le sujet.
Oui, bien sûr, la loi du plomb, donc, c'est un sujet compliqué par rapport, en tout cas, à l'insecticide, puis même les deux autres sujets, hein, qui sont les mégabassines, enfin les... Oui. Mégabassines, disons que l'irrigation, et puis sur les bâtiments agricoles de taille industrielle. Et, mais sur, rien que sur les pesticides, là, j'ai un article qui est paru dans, dans, la Ligue, dans le journal de la Ligue des droits de l'homme de 2023, à propos du produit qui avait été utilisé en Martinique sur le chlordécone à propos des bananes. Donc c'est un insecticide qui est de la famille d'un insecticide qui était interdit en 1970, le DDT, qui a fait de grands succès à l'époque, hein, puisque le DDT a permis d'éradiquer en partie disons, tout ce qui était moustique dans le midi de la France, hein, qui a permis des constructions, un tas de choses comme ça, à grande échelle. Donc c'est un insecticide qui était très répandu et qui a été arrêté, pourquoi ? Parce qu'il était très dangereux, qu'on retrouvait... stocké dans des graisses qu'on retrouvait stockées un peu partout, y compris dans les oiseaux migrateurs, et qui mouraient parce que quand ils consommaient les graisses, eh ben, ils consommaient ce produit qui était mortel, quoi. Donc, on ne faisait pas trop attention. Donc, il était interdit parce qu'on retrouvait même dans des graisses de poissons, etc., hein, très loin, ce produit qui se stockait très facilement dans les animaux, dans le sol, et puis ensuite, qui était réutilisé, qui était toxique, quoi, mortel. Donc, cette famille-là d'organochlorés avait été interdite dans les années 70, et puis ce produit-là, le chlordécone, c'est un peu de la même famille, hein, Et il était utilisé, ma foi, dans les bananeraies, hein, Guadeloupe et Martinique, pareil comme pour les betteraves, hein, parce qu'il y avait un parasite, un charançon, qui abîmait, qui détruisait ces cultures. Et donc, il fallait trouver une solution. Il y avait cette solution-là. Sauf que, ma foi, c'était pas en métropole. Donc, assez rapidement, il y a eu quand même des études de fait qui montraient la toxicité de ce produit-là, pour plusieurs choses. Les personnes, donc les ouvriers agricoles qui travaillaient dans ces bananeraies, mais aussi ce produit se stocke dans les graisses animales. Donc ensuite, quand on libère les graisses, on peut en mourir. Et puis aussi dans le sol. C'est-à-dire qu'il y a des stocks pour des années de ce produit-là. Mais pour autant, il a fallu 17 ans de procédure, hein, pour essayer de faire valoir la dangerosité de ce produit et de l'interdire. Hein, il était interdit, mais pas en métropole, dans ces départements d'outre-mer, pour la banane. 17 ans, et au bout de 17 ans, j'avais comme plan de procéder. On a dit, c'est trop tard, maintenant, il y a eu un non-lieu. Voilà, comme pour des problèmes humains, hein, quand il y a quelque chose de grave, c'est trop tard, donc il y a un non-lieu. Alors qu'en fin de compte, les ouvriers agricoles, ils continuent à subir ces pesticides-là, avec des choses très graves, un cancer et autres. Et puis, il y a des statistiques au niveau santé pour montrer qu'il y a des cancers bien particuliers qui se développent là et pas ailleurs, en nombre, en pourcentage. Et puis, après, comme c'est dans le sol, pendant encore des années, ces sols-là, ils vont garder ces produits-là.
Ah oui.
Mais ça, voilà. Et donc, c'est là, c'est comme ça. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui font un petit peu peur. Mais comme c'était en Martinique, c'était pas en métropole. Oui. Donc, ça a pris 17 ans. Puis après, un non-lieu derrière. Hein. Et c'est vrai pour plein de choses comme ça, au niveau des pesticides, d'où finalement la peur... un peu au niveau des citoyens français par rapport à ces débats sur les pesticides. Hein, pesticides, cite, ça veut dire tuer. Hein. Insecticide, c'est tuer les insectes.
Ah bah oui,
donc, c'est pas forcément un insecte, hein, c'est une bonne part des insectes, hein, voire même plus. Donc, c'est tuer après. Bon. Et en plus, quand cet insecticide, on ne sait pas les conséquences que ça a, y compris le stockage et même qui restent, qui ne sont pas dégradés. Donc, pendant 2 années, on peut avoir des conséquences de ce produit-là.
Sur la santé. Oui.
Et comme il y a des avis très divergents sur tout ça, hein, les industriels disent une façon, l'aspect au niveau de l'État, hein, d'une autre. Après, il y a tout ce qui est santé, les médecins, etc. Mais ils ne disent pas toujours tous de la même façon, en tout cas de la même force. Puis après, par contre, ce qui est important, et ça, ce qui avait été souligné par la Ligue des droits de l'homme, c'est le fait d'avoir des organismes indépendants, hein, qui puissent surveiller au niveau santé tous ces problèmes-là. Si ce n'est pas des organismes indépendants, ça n'a pas de valeur.
Ah bah oui. Ah oui.
Hein, on le voit, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Tous ces organismes indépendants, ils sautent comme ça. Il n'y a plus de contrôle.
Il n'y a plus de contrôle. Oui, plus de contradiction.
Il n'y a plus de contradiction. Comme ça, l'information, il y a la vérité qui vient de la voie, de la bonne voie.
Voilà. Oui.
Donc cette demande d'avoir de garder et de maintenir et de développer tous ces organismes indépendants, c'est très très important au niveau santé et même recherche. Recherche doit être indépendante. Pareil, hein, recherche. S'il y avait de la recherche indépendante au niveau, par exemple, des pesticides agricoles et autres, il y aurait peut-être moins de dérives éventuelles, peut-être.
Oui, oui.
Mais quand c'est lié, quand c'est financé par des industriels, c'est sûr que c'est difficile de s'opposer à celui qui vous finance.
Oui.
Ça, et le problème même de la recherche en France ou du contrôle, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un système indépendant. C'est comme la justice doit être indépendante, sinon ça ne passe pas. C'est plus fiable, disons, pas dans notre système démocratique tel qu'on est habitué à l'avoir en France. Donc ça, c'est important, cette façon-là de détourner ou de mettre ça de côté, quoi.
Ouais.
Donc voilà, cette loi du plomb, qu'est-ce qu'elle va devenir, parce que c'est compliqué au niveau des lois.
Oui, c'est tout le temps compliqué. Comment, parce voilà, que...
Entre que ça soit voté, parce que c'est toujours voté un petit peu comme ça en catimini, puis après, bon, ça passe, et on ne sait pas trop non plus ce qui passe, comment, parce que ça a été peu quasiment pas discuté.
Non, ça n'a pas été discuté.
Ça n'a pas été discuté. Surtout qu'il y avait possibilité de discuter. Alors, il y a toujours cette histoire qu'il faut que les lois passent rapidement et qu'elles soient... qu'elles en...
On est en plus dans un moment où il y a en plus ce budget.
Très compliqué.
C'est compliqué. Voilà. Hein, c'est très compliqué en ce moment. Donc,
Oui, parce que même tous ces organismes indépendants, il faut qu'il y ait un financement. Le financement ne peut venir souvent que de l'État.
Oui. Hein,
et c'est sûr que dans le contexte actuel, on a plutôt vite fait de sabrer quelque chose qui ne va pas trop gêner. Quoi.
Oui, parce que si on va en contre-courant, automatiquement, ça ne va pas. Hein.
Ben oui.
Voilà, malheureusement.
Et donc, sur tout ça, il y a par exemple dans la revue de la Ligue des droits de l'homme de juillet 2024, un livre qui est présenté, justement, qui présente un peu ça, qui vient des presses de Sciences Po, donc on peut quand même juger que ça est sérieux, qui parle d'agriculture empoisonnée, hein, donc avec les pesticides, etc. Donc, c'est une étude qui a été faite par des gens de Sciences Po, par des chercheurs, des sociologues, etc., qui voient un petit peu tout l'impact que ça a au niveau agricole, mais au niveau société, hein, tous ces pesticides. Hein, mais aussi le type d'agriculture qu'on veut, mais de l'agriculture, mais aussi de société qu'on veut derrière.
Qu'on veut derrière, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein,
parce que c'est sûr que la ruralité telle qu'on la voit, la vit dans les Vosges, par exemple, eh bien, ma foi, c'est déterminé par ça.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'on veut ?
Qu'est-ce qu'on veut, oui.
Est-ce qu'on veut... D'ailleurs, ça s'était développé dans les années 60-70, où là, on sortait de la guerre. Et c'est vrai qu'en France et en Europe, on avait faim. D'où ce développement massif par l'Europe en volume. C'est important.
Quand
on a faim, il faut faire du volume. Et puis, ça s'est développé sur le modèle... c'est le modèle néerlandais, hollandais, hein, de faire du volume sur des petites surfaces avec peu de gens. Hein, et ça correspondait aussi peu de gens parce que l'industrie avait besoin de main-d'œuvre. Donc finalement, ça correspondait bien à un modèle de ces années-là. D'où ce développement, par exemple, en Bretagne, dans l'Ouest, d'une grande partie de tout ce qui est élevage dit industriel, c'est-à-dire volailles. Les volailles, les porcs, etc., qui représentent même le lait, hein, qui représentent presque la moitié de la production française, sur quelques départements. D'où les conséquences que ça a. Derrière ça. Donc, c'est un choix. À l'époque, ça avait une cohérence, mais à savoir, est-ce que maintenant, on veut continuer ou est-ce qu'on veut modifier, hein? Donc, c'est pour ça que les gens ont quand même leur mot à dire sur ça, au niveau du choix de société.
D'ailleurs, on voit quand même pas mal de jeunes qui vont travailler pendant 20 ans, puis au bout de 20-25 ans, ils en ont marre, et puis ils veulent un petit élevage, ils vont prendre quelques vaches, ils vont prendre quelques animaux. Si on laisse le choix, je pense que les gens qui sont agriculteurs, ils aiment leur métier. Hein.
Oui, c'est sûr. Et puis en plus, il y a, je pense, la place pour deux types, c'est-à-dire de faire une sorte de ce qu'on appelle du volume. Hein. Et puis d'un autre côté, ma foi, que certains mettent ça de façon péjorative, des niches. Hein. J'aime bien, parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien, ici dans les Vosges, ça serait beaucoup de niches. Hein. Le Munster, c'est une niche parce que c'est un produit pas basique, c'est un produit quand même à AOP, etc. Et puis quand on va à des marchés comme au Girmont cet été, quand on voit cette diversité de gens qui transforment et autres, qui commercialisent et puis qui ont des formes très différentes, qui finalement occupent le terrain et de façon économique, rentable.
Oui, oui. Hein.
Et en plus, en demandant, finalement, parce que quand on regarde bien l'Europe, c'est quand même le budget européen, c'est 40% qui va dans l'agriculture, au sens très large. Mmh. Ce n'est pas ces gens-là qui en prennent le plus, en fait.
Ils en prennent
beaucoup moins que d'autres, qui prennent beaucoup d'aides européennes, alors que ces gens-là en prennent peu, proportionnellement, et par contre font vivre le territoire.
C'est vrai.
Et le développent.
Là-dessus qu'ils se sont battus aussi les agriculteurs quand ils ont fait toutes leurs manifestations.
Voilà, c'est de trouver ce qu'ils appellent certains des niches, mais en fin de compte, même les produits comme le Munster, c'est une forme de niche parce que ce n'est pas un produit banal. Hein, ben c'est non. pas un kilo de je sais pas quoi. C'est vraiment un produit particulier qu'on peut faire qu'ici. Et c'est important pour maintenir une population dans un territoire. Quand on parle de ruralité, c'est ça. Et c'est vrai que la ministre actuelle de la ruralité, elle essaie de se battre sur ça. Mais bon, c'est des fois difficile parce
c'est
que
difficile, oui.
Y a tellement d'enjeux différents. Hein, que... Mais les deux devraient pouvoir cohabiter.
Mmh. Voilà. Il y a de la place pour les deux.
Voilà. Et après, bon, au niveau même commercial, il y a des au niveau des consommateurs, bah, pour les deux types de produits. Quoi.
C'est
y compris
vrai.
Même, d'ailleurs, dans beaucoup de communes, ils développent une restauration plus proche, hein, plus locale. Donc, comme quoi, il y a bien possibilité, mais ça, c'est un choix de société, hein,
de société,
que les gens commencent à s'interroger,
à se rendre compte.
À prendre compte, oui. Et c'est vrai que c'est important, quand même, que les gens s'impliquent sur tous ces choix-là.
Oui, oui, oui. C'est vraiment... prendre conscience que voilà.
Et parce qu'on parle toujours
tout
de désert,
important.
On parle toujours de désert, mais ça va ensemble quoi. Hein.
Bah oui.
S'il y a les écoles elles ferment, pourquoi? Parce que eh ben les familles il y a pas d'emploi, etc. Donc c'est important de maintenir localement tout ce qui peut permettre des emplois, des familles et puis le reste tout le tissu, que ce soit au niveau des écoles, des médecins, de l'aspect santé,
du petit café du coin, du
l'hôpital,
du boulanger, l'hôpital,
ça fait un tout. Et c'est vrai que dès qu'on on laisse un trou, après on parle de désert, et la pente ne fait que s'accentuer après.
Oui, parce que quand il n'y a plus les services, et on s'en va, et puis surtout l'école, quand il n'y a plus d'école.
Donc tout s'élimine petit à petit,
ouais.
Et puis après pour revenir plus en arrière, c'est quand même compliqué. Hein. Mais même le tourisme, parce que quand on voit dans certaines zones comme à Ventron, il faut maintenant du tourisme 4 saisons. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de tout ça, quoi, pour... c'est pas un îlot, quoi.
Non, il y a besoin de tout, en fait. Hein. C'est vrai que à partir du moment où, de toute façon, on avait perdu les grandes entreprises de textile, surtout dans les Vosges, il fallait compléter, il fallait reprendre par autre chose, quoi.
Ben oui, surtout que c'était un grand nombre de salariés qui ont été abandonnés rapidement, en plus, en quelques années. Donc, il a fallu réagir vite. Mais c'est vrai qu'après, les communes, elles sont exsangues quand
elles
vident.
Oui.
Il n'y a plus de ressources, mais il y a encore des dépenses.
Oui.
Donc, après, ça coince dans tous les niveaux. Quoi.
L'économie,
c'est ça. Hein, ce qui rentre, ce qui sort.
Ouais.
Donc, c'est très important de prendre en considération l'ensemble. D'ailleurs, normalement, le ministre de la Ruralité, c'est un peu son boulot, quoi, hein, de prendre ça en compte.
Oui.
Et de faire passer ce message. Mais bon... c'est difficile, quoi, actuellement.
Oui, c'est difficile. Quand on voit, de toute façon, c'est d'autant plus compliqué qu'ils n'arrivent pas à faire de concessions entre eux. Hein. On voit bien que personne ne veut faire de concessions. Donc, de toute façon...
Et puis l'argent est derrière, c'est le nerf de la guerre. Hein. Ça veut dire qu'il faut répartir les budgets. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on met dans chacun?
Dans quelle poche on va mettre un petit peu d'argent? Ouais. Donc, voilà.
Le film de Goliath... va être présenté mardi 16 au cinéma Majestic à Remiremont
à
20h. Donc nous comptons sur vous et après avec un débat.
Oui, venez parce que au même titre que les autres films qui avaient été présentés, c'est vrai que on se rend compte qu'on a besoin de savoir ce qu'il y a derrière les choses et c'est toujours bien de pouvoir assister à des films comme ça qui présentent vraiment le devant mais le derrière de la scène aussi.
Ainsi que le débat qui souvent permet
d'éclaircir
ou d'élargir un peu
c'est ça.
Ou de le repositionner localement.
Voilà, donc n'hésitez pas, c'est mardi prochain, 16 septembre, 20h au Majestic. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonne soirée.